Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La stabilité de la région autonome kurde d'Irak avait, ces dernières années, attiré les investisseurs et les grandes compagnies internationales, à l'image des groupes pétroliers comme Chevron ou Total. Les guerres successives qui se sont déroulées à ses portes, l'engagement contre les combattants de l'État islamique et les querelles politiques internes avaient quelque peu refroidi les ardeurs de ces grands groupes. Mais pas les entrepreneurs libanais, toujours très présents dans cette région, un temps présentée comme le prochain Dubaï. En raison d'une proximité déjà ancienne, les Libanais animent le commerce local, plutôt dans le haut de gamme, et ils développent de nombreuses compagnies dans tous les secteurs et attendent patiemment que le calme revienne dans la région pour investir le reste de l'Irak. Les Libanais au Kurdistan d'Irak, c'est le premier sujet d'Orient Hebdo ce dimanche. Et puis, nous irons à Mossoul. Mossoul qui fut durant 3 ans l'une des capitales du groupe État islamique et dont revient notre second invité ce dimanche, Donatella Rovera, experte auprès d'Amnesty International. Bonjour Dimitri Deschamps.
Bonjour.
Doctorant en sciences politiques à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, doctorant associé à l'Institut français du Proche-Orient. Nous le disions dans les titres, le Kurdistan irakien est en pleine expansion économique depuis 2003 et la fin du régime de Saddam Hussein. La très grande autonomie de la région a certainement favorisé cette croissance. Parmi les acteurs de ce développement, on constate une forte présence libanaise. Près de 180 compagnies libanaises ont ouvert une filiale au Kurdistan d'Irak, ce qui en fait la plus forte minorité d'affaires étrangères non kurdes. Dimitri Deschamps, qu'est-ce qui attire les Libanais au Kurdistan ?
Alors, la présence libanaise dans la région du Kurdistan est à comprendre initialement dans un contexte de reconstruction post-guerre de l'Irak dès 2003. En effet, cette année, l'embargo international qui était imposé à l'ensemble du pays depuis 1990, hein, suite à l'invasion de Saddam Hussein du Koweït, est levé et la croissance commence à partir, impulsée par le fonds de reconstruction de l'Irak. Donc, il y a à peu près 60 milliards de dollars qui est mis à disposition des autorités locales les premières années. Toutefois, les hommes d'affaires libanais qui commencent à arriver à Bagdad s'aperçoivent rapidement que la situation sécuritaire sur place est assez difficile, hein, puisqu'il y a confrontation chiite, sunnite, etc. Et décident pour des mesures de sécurité de s'orienter plus vers le nord, donc à Erbil, qui constitue la capitale de la région kurde. À partir de ce moment, une liaison aérienne est mise en place entre Erbil et Beyrouth, ce qui permet aux autorités kurdes, qui disposent dorénavant de nouveaux moyens et qui ont des besoins énormes, puisque après 10 ans de guerre, ils sont en besoin très important de reconstruction. Et là, ils font appel eux-mêmes aux compagnies libanaises pour participer à une vaste entreprise de consultance et de reconstruction, notamment dans l'urbanisme.
Parce que les Libanais sont plus spécialisés dans les questions de reconstruction, dans ces problématiques-là ?
Les Libanais ont participé à la forte croissance économique des Émirats Arabes Unis. Donc ils sont connus par les Kurdes pour cela et les Kurdes ont, depuis les années 1925, une importante communauté dans la région du Liban. Donc il y a déjà des relations qui se sont forgées entre eux. Donc c'était assez facile à ce moment-là, finalement, de faire appel à eux pour participer à ce programme. Et les premières compagnies qui arrivent bénéficient donc de très importants contrats, de parfois plusieurs centaines de millions de dollars, ce qui, forcément, par le phénomène de bouche à oreille, engendre une boule de neige, hein, finalement, de plus en plus de compagnies décident d'arriver et pour atteindre un pic dans les années 2012-2013.
Alors vous dites qu'il y a déjà des liens entre les Libanais et les Kurdes, car il y a une forte population kurde présente au Liban.
Voilà, tout à fait. Il y a à peu près 60 à 150 000, alors c'est une fourchette assez large, hein, de Kurdes qui sont arrivés après le démantèlement de l'Empire ottoman. Des partis politiques kurdes se sont beaucoup appuyés sur le territoire libanais pour se développer, hein, notamment des partis de contestation comme Roybun contre les autorités turques. Mais le PDK, qui est le Parti démocratique du Kurdistan irakien, s'est également forgé, s'est également appuyé sur le territoire libanais pour se redévelopper et pour se reconstruire après certaines périodes de difficultés au Kurdistan.
Quels sont les secteurs d'activité qui ont été investis plus particulièrement par les Libanais au Kurdistan d'Irak?
Alors, les Libanais s'investissent principalement dans le domaine des services, hein, c'est-à-dire le domaine bancaire. Il y a quand même jusqu'à 8 banques libanaises qui ont ouvert une filiale sur place, hein, dont des banques très importantes dites Alpha, c'est-à-dire dont les dépôts sont supérieurs à 2 milliards de dollars. Ils ont également investi l'hôtellerie, puisque le premier hôtel 5 étoiles de la région, Rotana, a été construit par une entreprise libanaise. Ils sont également présents dans la restauration, beaucoup, dans l'éducation. Ils ont construit beaucoup d'écoles, ils ont construit 2 universités. Ils sont présents dans le bien-être, c'est-à-dire dans le spa, par exemple, les salons de beauté, ainsi que dans le commerce du luxe.
Et sur le plan purement professionnel, quel modèle commercial propose-t-il sur place ?
C'est vrai que les Libanais se concentrent sur des produits et des services dits globaux, c'est-à-dire que ce sont des services aux caractéristiques, à la qualité, mais également au prix semblable à ceux existants dans les économies développées. Ce qui correspond très bien à ce phénomène, c'est celui des franchises. On a les franchises de Lalik, ce que disaient les bijoux, on a des parures à parfois à 1 million de dollars et plus, des chaînes de restaurants bien connues, des chaînes de rideaux, etc., de voitures. Donc ils reproduisent des modèles qu'ils ont déjà expérimentés soit au Liban, soit dans les pays dans lesquels ils ont investi préalablement, c'est-à-dire dans le Golfe, en Europe ou aux États-Unis.
Mais ce modèle est-il destiné plutôt aux élites du Kurdistan ou à la population en général ?
Alors, c'est vrai que ce sont surtout les élites et les expatriés qui forment le fonds de commerce, je dirais, des Libanais sur place. Quand on vend un canapé entre 5 et 10 000 dollars, vous comprendrez bien que pour un salaire moyen au Kurdistan de 700 dollars à peu près, c'est relativement cher. Ce sont surtout des élites qui voyagent beaucoup, qui souhaitent retrouver un petit peu le confort et la qualité de services et de biens qu'ils trouvent à l'étranger, et les expatriés qui, eux, pareil, ne souhaitent pas être totalement dépaysés quand ils vont s'installer à Erbil ou Soleimani.
Est-ce que les Libanais ont créé des sociétés qui n'existaient pas préalablement au Kurdistan irakien ? Vous citiez tout à l'heure les liaisons aériennes. Ont-ils créé des compagnies aériennes, par exemple ?
Alors, les premiers Libanais à être arrivés sur place, je disais, 2004, l'ont fait par une toute petite compagnie aérienne qui s'appelait Tapis Volant, qui permettait de transporter des hommes d'affaires, mais aussi des journalistes, des humanitaires, à partir du Liban, dans la région kurde, à partir d'un tout petit avion bimoteur 19 places. Effectivement, face au succès rencontré par cet armateur, qui était lui pas simplement passionné d'aviation, mais qui est un pharmacien, ça a attiré les envies du grand groupe, dont Middle East Airlines, qui a effectivement ouvert quelques années plus tard une communication régulière entre le Liban et la région du Kurdistan d'Irak.
Diriez-vous que cette région est utilisée par les Libanais aujourd'hui comme base arrière dans la perspective de s'implanter plus tard et plus largement en Irak ?
Tout à fait. Les Libanais sont arrivés à Erbil parce que c'est stable, dans la perspective de conquête de l'ensemble du marché irakien. Il faut savoir que le budget kurde constitue 17% du budget fédéral irakien, ce qui signifie qu'il reste 83% du budget sur lesquels les Libanais, bien entendu, lorgnent. À partir d'Erbil, nombreux sont les hommes d'affaires qui décident d'aller ouvrir une seconde branche à Soleimani et Dohuk, qui sont les autres villes principales du Kurdistan, mais qui se déploient également à Bagdad, la capitale irakienne, aussi à Basra et à Bassora.
Dimitri Deschamps, y a-t-il un profil type de l'investisseur libanais en Irak ?
Alors, je ne pourrais pas dire qu'il y a de profil type, non. Il y a forcément des hommes d'affaires très riches qui viennent avec l'appui de leur multinationale qui investissent des millions, des centaines de millions de dollars. Mais il y a également des petits entrepreneurs qui décident d'aller tenter leur chance dans le nouvel Eldorado, puisque c'est comme ça qu'il était considéré, en quittant tout ce qu'ils possèdent au Liban, en revendant parfois leur maison, leur voiture, en prenant l'avion et en allant tenter leur chance. Donc ce sont des gens pas forcément qualifiés, qui sont allés ouvrir une entreprise dans un domaine dans lequel ils ne connaissaient pas forcément, simplement pour aller tenter leur chance.
Et est-ce que cet engagement entrepreneurial s'accompagne d'une intégration sociale des personnes, je veux dire comme le font habituellement les Libanais dans de nombreux pays, ils s'installent en famille?
Tout à fait. Dans la région du Kurdistan d'Irak, la configuration est un petit peu différente. D'une manière générale, puisqu'il y a toujours des exceptions, les Libanais qui vont s'installer à Erbil y vont seuls. C'est-à-dire qu'ils laissent leur famille, leurs femmes et leurs enfants au Liban. Ils y vont, ils tentent l'aventure. S'ils gagnent de l'argent, ils renvoient ça au pays. Pour ce qui est de l'intégration sociale dans la société kurde, elle est malheureusement, enfin je ne sais pas si c'est malheureux, mais elle est très limitée. C'est-à-dire que déjà les Libanais ne parlent pas kurde et n'ont pas l'intention de l'apprendre. Et vivent, ils font, bon j'ai pas métro boulot dodo puisqu'il n'y a pas de métro, mais ils font 4x4 boulot dodo. C'est des gens qui passent leur temps dans leur entreprise et qui le soir rentrent directement chez eux. Leurs activités extra-travail se résument bien souvent à se retrouver autour de la piscine de l'hôtel 5 étoiles Rotana, aller quelques fois au restaurant, mais ce sont pratiquement exclusivement au sein d'autres établissements libanais.
Mais est-ce qu'ils sont bien perçus par la population kurde ?
Alors, ils ont une bonne réputation, c'est vrai, du fait de leur succès économique dans la région du Kurdistan. Toutefois, ils sont parfois moyennement reçus par les Kurdes moyens, je dirais, qui ne peuvent pas se payer le luxe de leurs services et de leurs produits. Comme je le disais, quand on a un canapé à 4000 euros mais qu'on gagne 700 euros par mois, c'est assez difficile. Quand on va dans un fast-food, il faut payer 20 euros le petit menu, alors qu'on peut payer 2-3 euros pour un menu complet dans un restaurant kurde, ça crée des différences et certaines jalousies, certainement, oui.
On le comprend. La victoire contre l'État islamique à Mossoul est-elle une bonne nouvelle pour le commerce au Kurdistan ? Est-ce que les Libanais craignent un éventuel conflit entre Erbil et Bagdad, par exemple ?
Alors, les Libanais n'ont pas réellement eu cette crainte jusqu'à ce que ça arrive. La libération de Mossoul a été pour eux une très bonne nouvelle. Après une crise économique en 2014 qui a vu de nombreux Libanais quitter la région, on en voyait de nouveau arriver. Malheureusement, avec le référendum du 25 septembre et les confrontations par la suite entre les Peshmerga et l'armée irakienne, et la fermeture des vols internationaux, des vols des aéroports d'Erbil et de Sulaymaniyye, là ils commencent à être un petit peu plus inquiets, effectivement.
Et ils envisagent de partir ou préfèrent-ils rester sur place ?
De nombreux Libanais sont partis. Hein, entre 2014 et 2015, on a à peu près 30% des Libanais présents et qui ont décidé de quitter la région. Très certainement plus par la suite, à mon avis, c'est quand même peut-être 60 à 70% des Libanais qui sont partis. Mais il s'agit des Libanais, j'allais dire, les plus faibles. Hein. Ce sont ceux qui étaient les moins qualifiés, ceux qui avaient le moins de moyens, qui n'ont pas pu résister à cette déflation économique. Ceux qui ont des entreprises plutôt bien ancrées, des multinationales, mais pas seulement, considèrent qu'il est dans leur intérêt de rester sur place parce qu'ils continuent quand même à parier sur un avenir économique radieux dans la région du Kurdistan.
Merci Dimitri Deschamps, doctorant en sciences politiques à l'École des hautes études en sciences sociales et doctorant associé à l'Institut français du Proche-Orient, spécialiste du Kurdistan d'Irak où vous avez vécu 2 ans, je crois, et aussi de l'immigration d'affaires.
Merci.
Et nous étions en ligne avec vous depuis Cherbourg, sur la côte normande, grâce aux moyens techniques de France Bleu Cotentin, la radio locale de Radio France, que je remercie ici. Hey, hey, hey.
بين الهوى والمية صبيرني بلاها قالوا لي بدنا نجوزك مقدار أصبر بلاها قالوا لي بدنا نجوزك مقدار أصبر بلاها مثل الهوى والمية شي صبيرني بلاها
Elle rentre d'une mission à Mossoul, dans la province irakienne de Ninive, pour le compte d'Amnesty International. Donatella Rovera nous donne un aperçu de ce qui se passe dans cette région libérée de l'État islamique. La partie est de la ville, moins abîmée que la vieille ville, reprend des couleurs, mais beaucoup d'habitants, yézidis ou chrétiens, qui avaient trouvé refuge au Kurdistan, ne sont pas encore rentrés. Donatella Rovera.
Il est certes possible pour les gens de retourner. Il n'y avait pas beaucoup de yazidis qui habitaient à Mossoul. Les yazidis habitaient essentiellement aux alentours de Mossoul. Et la majorité des yazidis restent aujourd'hui déplacés. Parce que les villes qui étaient habitées par les yazidis, une ville comme Sinjar, qui a été, elle, reprise en fin 2015, donc ça fait très longtemps, il n'y a pas eu de reconstruction, etc. Donc les yazidis ne peuvent pas retourner chez eux en grand nombre parce que les conditions matérielles ne sont pas réunies, mais aussi parce que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies, parce qu'ils ont toujours peur. Donc les yazidis, en tant que minorité, restent largement déplacés. Les chrétiens des zones aux alentours de Mossoul, qui étaient majoritairement chrétiennes, sont dans un bon pourcentage revenus, des villes comme Karakoche, El Koch, etc. À l'intérieur de Mossoul, comme je vous ai dit, le pourcentage de population qui est revenue reste faible. Et cela est vrai aussi bien pour la population qui était majoritaire, comme les sunnites arabes, que pour les autres, les chrétiens et autres groupes.
Avez-vous vu une volonté des autorités, notamment des autorités irakiennes, le gouvernement, d'accélérer le mouvement pour reconstruire Mossoul, pour aider à ce que la population revienne ?
Si cette volonté existe, elle n'est pas très visible ni très évidente aujourd'hui. Il y a des élections qui se préparent, qui vont se dérouler dans quelques semaines, au début du mois de mai. Donc je crois que cela est peut-être plus haut sur l'agenda des autorités. Il y a à toute évidence des problèmes de financement. Nous avons vu récemment, il y a eu une conférence au Koweït pour la reconstruction où ce que les autorités semblaient s'attendre de la communauté internationale ne va pas se matérialiser. Donc cela pose des questions quant au futur de cette ville, mais aussi si on prend l'exemple d'autres villes comme la ville de Fallujah, de Ramadi qui ont été reprises bien auparavant, au niveau de reconstruction, pas grand chose a été fait. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'activités au sein de Mossoul, de la part de la population de Mossoul. En plus, Mossoul était une ville où il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de commerçants, de gens qui avaient des moyens financiers. Donc le gros de ce qui a été refait à Mossoul, au niveau de les gens qui ont réparé leur maison, etc., ça a été les efforts d'individus, mais aussi des initiatives de certaines parties de la population civile, comme l'initiative de repeupler la bibliothèque de l'université de Mossoul. Là, c'est quelque chose qui a été fait entièrement par la société civile, des bénévoles qui se sont activés, des étudiants, des enseignants qui ont nettoyé une certaine partie de l'université qui n'avait pas été complètement détruite, la bibliothèque, qui ont fait des appels et demandé des actes de solidarité, d'envoyer des bouquins. Donc, ce qui donne l'espoir, c'est un peu la volonté au niveau des individus qui ont beaucoup moins de moyens, mais beaucoup plus de volonté de s'investir que les autorités gouvernementales, malheureusement, pour l'instant.
Merci, Donatella Rovera. Je rappelle que vous êtes chercheuse et principale conseillère d'Amnesty International pour les situations de crise.
Merci à vous.
Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golshani, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre application Pure Radio, également sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.